voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne-Françoise Dumont.
Ma chère petite femme, ma chère Louise, qui écrit ainsi ? Gaston Maspero, le premier égyptologue de son temps. C'est du bord du Nil qu'il laisse courir sa plume pour notre plus grand plaisir. Louise Maspero a soigneusement conservé les nombreuses lettres que son mari lui envoyait d'Égypte lorsque les obligations familiales la retenaient en France. Cette correspondance, sous le titre « Lettres d'Égypte », a été éditée au Seuil en avril 2003. Édition établie et présentée par Elisabeth David et préfacée par Robert Solé. À deux reprises, de 1881 à 1886, puis de 1899 à 1914, ce travailleur infatigable est appelé à diriger le service des antiquités de l'Égypte au Caire. Sa jeune femme ne peut vivre en permanence à ses côtés et passe une partie de l'année en France. Pendant les périodes de séparation, ils s'écrivent deux ou trois fois par semaine. Si les lettres de Louise ont disparu, celles de Gaston ont toutes été conservées. La publication de ce trésor s'imposait. Au-delà du journal de bord d'un savant, c'est le témoignage d'un Français d'Égypte. Gaston Maspero raconte les fouilles archéologiques majeures qu'il entreprend, la construction du musée du Caire, la lente remontée du Nil pour plusieurs mois d'inspection et de découverte en Haute-Égypte. Il participe à tous les aspects de la vie du Caire et s'intéresse aux nouvelles politiques d'une époque mouvementée où les rivalités internationales n'épargnent pas le monde des archéologues. Mais ces lettres racontent aussi l'histoire intime d'un couple où l'affection et la complicité intellectuelle ne se démentent jamais, où les attentions de l'époux et du père se mêlent aux mille détails de la vie quotidienne. Le talent littéraire et l'intérêt des récits de l'archéologue sont indissociables de l'émotion familière qui naît à la lecture de ces lettres et en font un document irremplaçable. Gaston Maspero est né à Paris le 23 juin 1846 d'une mère lombarde et d'un père non dénommé. Il s'agit très certainement de Marco de Aguirre, un noble napolitain qui, s'il ne reconnaît pas l'enfant, finance néanmoins ses études au lycée Louis-le-Grand. Le fils d'Adèle Maspero est brillant. Il accumule les prix et entre à l'école normale supérieure. À 12 ans déjà, il avait commencé l'étude des hiéroglyphes en attendant de se plonger dans l'arabe et le sanskrit. Auguste Mariette, directeur du service d'antiquité de l'Égypte et fondateur du musée de Boulak, a entendu parler de ce surdoué. En 1867, de passage à Paris, il l'invite à traduire un texte en hiéroglyphe, tâche dont Maspero s'acquitte à la perfection. À la suite d'un différend avec la direction de l'école normale, il quitte l'école et à 21 ans, les mains vides, il part pour Montevideo, où il passera 9 mois à essayer de démontrer que le quichua, langue péruvienne, est un dialecte sanskrit. Sur place, il apprend l'espagnol, le cadre lui plaît et il est même tenté un moment de s'établir en Amérique latine. Mais l'Égypte occupe toujours son esprit. En 1869, Gaston Maspero est choisi par Emmanuel de Rouget, professeur d'archéologie et de langue égyptienne, comme répétiteur à l'école pratique des hautes études. Il donne aussi, cette même année, une dizaine de leçons sur l'histoire et la civilisation égyptienne à l'impératrice Eugénie qui se prépare à aller inaugurer le canal de Suez. Parallèlement, Auguste Mariette lui confie quelques travaux. Et c'est en janvier 1873 qu'il soutiendra en Sorbonne la première thèse de doctorat en égyptologie présentée en France. Entre-temps, La guerre conduit Maspero à s'engager dans la garde mobile, ce qui lui vaut d'être naturalisé français en janvier 1871. 10 mois plus tard, il épouse une Anglaise, Etty Yap, dont il aura 2 enfants, un garçon, Georges, et une fille, Bella. Etty mourra malheureusement en septembre 1873, laissant Gaston Maspero dans un profond désarroi. Mariette le réconforte à distance. « Un seul remède, lui dit-il, le travail. » Maspero n'en manque pas. À la mort d'Emmanuel de Rouget, en décembre 1872, il a été choisi pour lui succéder à la chaire de philologie et antiquités égyptiennes du Collège de France. Il sera titularisé en février 1874. Ses élèves sont subjugués par sa culture. On se bouscule pour l'entendre. Pourtant, il n'a jamais encore mis le pied en Égypte. L'Égypte, il va la découvrir en 1881 et même s'y établir, à la demande du gouvernement français. Il y a urgence. Auguste Mariette, très malade, n'a plus longtemps à vivre. La direction des antiquités égyptiennes risque d'échapper à la France. Créer une école d'archéologie au Caire sur le modèle de celle de Rome ou d'Athènes, permettre aux futurs égyptologues de se former sur le terrain, le professeur du Collège de France paraît tout désigné pour cette double mission. Une mission qui bouscule ses projets, puisqu'il vient de se remarier. Sa jeune épouse, âgée de 22 ans, sort du couvent de la Flèche. Louise d'Estournel de Constant est la petite nièce de Benjamin Constant. Elle est aussi la sœur d'un ami de Maspero, Paul d'Estournel de Constant, diplomate, futur sénateur et prix Nobel de la paix en 1909. Maspero fait ses malles, prend le bateau et se rend au chevet de Mariette, dont il recueille les dernières volontés. Nommé au poste de directeur des Antiquités et du musée de Boulac, il met en place parallèlement l'école du Caire avec l'aide de quelques collaborateurs. École qui deviendra plus tard l'Institut français d'archéologie orientale. Les Maspero vivent à bord du Menchier, le bateau du service des Antiquités, amarré à un quai du Nil. C'est un logement agréable l'hiver, mais insupportable dès que les chaleurs commencent et malsain quand le Nil baisse, écrit l'égyptologue à Ernest Renan. Il y passera pourtant toute la durée de son premier mandat. Maspero découvre une Égypte peuplée de 8 millions d'habitants, essentiellement rurale, accablée de dettes, que surveillent de près ses deux principaux créanciers, Londres et Paris. Si la Grande-Bretagne va bientôt y dépêcher des troupes pour l'occuper, la France continuera à exercer son influence de manière plus pacifique. La France possède, par l'intermédiaire de religieux catholiques, les meilleures écoles du pays. La langue française domine, dans la presse et les salons, comme dans les affaires et la justice internationale. Chaque année, à la fin juillet, Gaston Maspero quitte le Caire pour séjourner en France et il regagne son poste fin octobre. Louise, elle, partie plus tôt, est de retour plus tard. Ils ne s'écrivent donc qu'en début et en fin d'année scolaire, sauf quand la jeune femme prolonge ses séjours en Europe pour des raisons de santé ou de maternité. Ce courrier passe ainsi sous silence les événements que Gaston et Louise vivent ensemble. Et il faut se résigner à lire entre les lettres. La première date du 26 novembre 1883. Des événements spectaculaires ont cependant marqué le début du mandat de Maspero. Découverte des fameux textes des pyramides à Saqqara, démantèlement d'un trafic d'antiquités à grande échelle, soulèvement nationaliste contre le Khédive et mort en juin 1882 du premier enfant de Louise, dont elle a accouché à bord du Menchier. Dès lors, la santé de Louise ne cessera d'inquiéter Gaston, qui le manifestera à distance dans toutes ses lettres. À distance, il organise en détail les voyages de sa femme, multipliant les mises en garde et les conseils. Boulac, le 2 janvier 1884.
J'ai reçu une lettre de Monsieur Vilbourg qui m'annonce ton programme. Tu partiras le 21 pour la Champagne et le 31 pour l'Égypte. N'oublie pas qu'il faut que tu prennes un wagon-lit pour aller jusqu'à Marseille. Tu partiras le 29 au soir, bien couverte et bien enveloppée de flanelle. Et tu seras à Marseille le 30 vers 10 heures. Tu descendras, comme je t'ai dit, au Grand Hôtel de Marseille. Tu te reposeras de ton mieux et tu auras soin d'avoir un livre amusant à lire, car je n'aime pas beaucoup que tu te fatigues l'esprit en songeant au départ. Tu prendras le paquebot le 31 à midi. Peut-être préféreras-tu faire comme moi et partir le mercredi à 11h, mais c'est vraiment fatigant. Je raisonne toujours dans l'hypothèse où tu serais prête à partir le 31. Si le médecin y voit quelque inconvénient, il faut retarder de 8 jours, surtout maintenant que le voyage en Champagne t'impose de nouvelles fatigues. Surtout, fais attention au froid. Enveloppe-toi bien le ventre et les pieds. Il y a pour sortir par la neige des sortes de bottines en caoutchouc fourré qu'on met par-dessus les bottines ordinaires. Cela coûte 12 ou 15 francs. Aie-en une paire que tu mettras en montant en wagon. Il ne faut pas que la moindre imprudence vienne gâter ce qui a été si bien et si heureusement commencé. Le mois de janvier est quelquefois assez chaud et tu voyageras de jour pour aller à Vitry. Néanmoins, la Champagne est un pays froid et je t'engage à te défier d'elle. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus court d'aller de Vitry à Dijon, rejoindre la ligne de Lyon par les lignes transversales, ou de revenir à Paris. Mon expérience m'a montré qu'on est forcé de changer de wagon souvent, que le service est mal fait, que les trains se raccordent mal sur les lignes transversales. D'ailleurs, arriver à Dijon vers 1h du matin pour y prendre le rapide de Marseille ne me paraît pas être pratique. Il vaudrait probablement mieux revenir à Paris et alors ton temps se répartirait de la sorte. Le 21 arrivé à Vitry, séjour jusqu'au 26, départ le 27 au matin, de manière à te reposer le 28 entier à Paris et voir une dernière fois le docteur avant le grand départ. Bien entendu, ceci n'est qu'une simple hypothèse. Si tu crois pouvoir mieux arranger les choses, je m'en remets à toi. Pourvu que tu n'aies ni froid, ni fatigue excessive, ni fatigue exagérée, je serai content de tout ce que tu feras. Je veux seulement que tu dormes en chemin de fer et que tu n'arrives pas épuisé à Marseille. Tâche d'y donner rendez-vous à Charme, afin qu'il s'embarque avec toi. Vous ramasserez M. Vilbourg en passant à Naples. Si Marion veut venir, invite-le. Je lui ai écrit une lettre où je lui dis qu'il est libre de venir quand il voudra.
Ce côté paternel tient sans doute à leur différence d'âge, 13 ans. C'est un chef de famille qui s'exprime volontiers, guide et consolateur. Boulac, le 12 janvier 1884.
Je t'en prie, ne passe pas tes derniers jours dans les transes et ne t'affaiblis pas trop. L'important est pour le moment de nous réunir. Une fois que tu seras avec moi, je ne te quitterai plus et tu n'auras plus à souffrir qu'en souvenir. C'est déjà bien assez. Vois-tu, ma pauvre enfant, nous étions trop heureux à la fois. L'Institut, un garçon en 15 jours, la croix d'officier, celle de commandeur pour commencer l'année, c'en est que je sais ce que tu vaux. Dis-toi tout cela et vis pour moi, pour nos enfants, sans plus songer à ce que je n'ai pu empêcher.
Il a pour sa femme une tendresse infinie et la tient en grande estime. Louxor, le 19 février 1886.
Pour le moment, je ne puis t'écrire longuement, car il faut que la lettre soit au bateau poste dans une demi-heure. Je te dirai pourtant que j'ai reçu du ministère des Travaux publics l'ordre d'expropriation des 16 maisons du côté gauche du temple, et que j'espère pouvoir le mettre à exécution la semaine prochaine. Le bateau de la poste étant en retard, je prolonge ma lettre. Il ne faut pas t'affliger d'aller seul dans le monde. Je suis content de savoir que tu es en bonne compagnie et que tu ne restes pas seul à la maison. Notre long séjour en Égypte nous a donné des habitudes d'ours qu'il ne faut pas trop laisser s'invétérer. Quelques promenades à travers les salons ne te feront pas de mal et te donneront dans ta famille une place que la plupart ne veulent pas t'accorder. Tu me dis que ton frère Paul ne te reconnaissait pas ? Cela ne m'étonne guère. Il ne t'a jamais vu tel que tu es. Quand tu étais jeune fille, il s'était habitué à te considérer comme une bonne petite enfant, pas trop jolie, pas trop instruite, mais qu'il aimait beaucoup, et qui était toujours prête à tout faire pour qu'il pût briller hors de la maison. Il est certain que tu n'avais ni la fortune, ni l'aplomb, ni la désinvolture nécessaire pour briller à côté des Caïn, ou même de la pauvre étoile. Aujourd'hui, il te retrouve après 5 ans d'absence, maîtresse de toi-même, indépendante, avec un nom qui t'ouvre beaucoup de portes, et assez d'argent pour pouvoir t'habiller aussi bien que qui que ce soit. Il te compare aux autres, y compris à sa femme. Et naturellement, il ne peut pas croire que tu sois la Louise d'autrefois. L'effet est bien connu. Il t'avait laissé enfant. Il te retrouve femme et la maternité, les voyages, l'expérience souvent douloureuse que tu as faite de la vie ont développé en toi des qualités que l'existence que vous meniez autrefois ne permettait pas de soupçonner en toi. Dès le début, il m'a semblé qu'il y avait en toi de quoi faire une femme entre 100 000 si on voulait s'en donner la peine. Avec la puissance d'attachement, le cœur, l'intelligence native que tu possèdes, il aurait fallu que ton mari fût bien nul ou bien maladroit pour que tu ne devinsses pas ce que tu es.
Comme Champollion, son illustre prédécesseur, Maspero est un savant polyvalent. Sa culture est encyclopédique. Comme lui, il s'intéresse aux Égyptiens en chair et en os. Il parle l'arabe. Lors de sa première remontée du Nil en 1881, il interdit même à ses collaborateurs de copier des hiéroglyphes, pour les inciter à se pénétrer du paysage et des mœurs locales. Il étudie en scientifique complet tous les aspects de ce pays auquel il s'est donné. Ouasta, le 21 mars 1886.
Tu vois que nous approchons du Caire. Dans 3 jours au plus tard, le Menchier aura repris son poste le long du quai. La dernière partie du voyage n'aura pas été la moins agitée. Le Nil est si bas cette année que tous les bateaux sans sable à l'envi dans des endroits où ils passaient haut la main au mois d'avril de l'an dernier. Nous sommes partis jeudi matin de Siout. Et ce matin, dimanche, nous étions encore en vue de Minié. Notre première mésaventure nous est arrivée vers le milieu du Jebel Abou Foda. Nous sommes restés sur le sable 29 heures, au désespoir de Morel. Il a fallu réquisitionner 2 villages, décharger le bateau de ses antiquités du charbon, le traîner pendant 80 mètres environ. Le Nil a environ 1 mètre de profondeur à cet endroit. À peine dégagé, nouveau désastre, un peu au sud d'Adji Kandil. Cette fois, nous n'en sommes restés prisonniers que 4 heures. Hier, enfin, à 1 kilomètre de Minié, 8 heures de sable. Aujourd'hui, tout en marchant avec prudence, nous avons évité le danger. Une fois seulement vers 5h30, nous avons effleuré un banc. J'espère que maintenant nous voilà enfin hors d'affaires. J'ai pris la chose très philosophiquement. Il m'importe peu d'arriver au Caire après-demain ou dans une semaine, que je passe un jour sur le Nil ou dans le musée. C'est un jour de moins d'ici à la mi-juillet. J'ai donc profité de nos arrêts pour étudier les effets de lumière qui se produisent au coucher du soleil. Les ombres se disposent régulièrement le long des montagnes, ce qui en simplifie les formes et en font les contours. les masses largement modelées s'allongent en grandes lignes fières et suivies. Elles sont revêtues d'une couleur transparente et légère, une sorte de rose tendre, légèrement glacée de ce violet liquide qui est l'ombre des montagnes d'Égypte. La limpidité de l'air permet encore d'en noter tous les détails. En plein midi, on ne distingue que les plans généraux, les assises larges, alignées en murailles, tordues et ondulantes, courbées en amphithéâtre et façonnées en gradins, et dont la base se cache sous des monceaux de débris. Les ombres du soir font ressortir les saillies et rétablissent les plans. Les terrains les plus rapprochés, les villages, les tertres voisins du fleuve, s'assombrissent au contraire de plus en plus, surtout du côté du couchant. Le ciel apparaît rouge à travers les bois et les troncs de palmiers semblent une colonnade qui s'enlève en brun sur un fond d'or. Tout cela n'est que minutie, mais je ne terminerai pas tout cela. Le jour où je m'en irai, je dirai sans regret adieu à une position que j'ai eue toujours en soupçon et à des travaux que j'ai exécutés par conscience plus que par entraînement. Espérons que ce jour viendra dans 5 ou 6 mois. S'il ne vient que l'an prochain, ne nous en affligeons pas trop.
Tous les ans, le directeur des Antiquités navigue sur le Nil à bord de son bateau pour aller inspecter les sites de Moyenne et de Haute-Égypte. Il s'est fait accompagner par son épouse et quelques amis. Exceptionnellement, Louise, qui vient d'accoucher, se trouve en France au cours du périple de 1886. Son mari le lui raconte par des lettres quasi quotidiennes, accompagnées parfois de dessins. Ce récit de voyage est à lui seul un livre passionnant. Nous voyageons avec lui. Bedrechein, le 9 janvier 1886.
Ma chère petite Louise, nous voilà arrivés à Bedrechein. Nous avons fait la promenade traditionnelle le long de la digue jusqu'au village. Bourian et moi, nous n'avons pas pu nous empêcher de remarquer combien tu manquais. Ce voyage est pour moi plus triste que je ne puis dire. Je me sens tout désorienté de ne pas t'avoir là pour te montrer les jolis points de vue. Au moins, vois-je un avantage au départ. Le travail rendra les journées plus courtes et me rapprochera de toi. Tu as fait 10 fois la route, mais elle est toujours belle. Aucun incident au démarrer, aucun à la passée du pont. Nous laissons Roda sur la gauche. Les palais sont un peu plus écaillés que l'an dernier et l'on a dû jeter de la pierre au Mekias pour empêcher le fleuve d'emporter le Nilomètre. Dès à présent, je constate que l'eau est basse et que la navigation sera difficile. Partout le sable affleure, ici en longues traînées plates à peine visibles au-dessus de la surface en aval, taillées abruptes en amont à l'endroit où le courant porte. Là, de vrais îlots, allongés, zébrés et écaillés par les remous, comme des dos de crocodile. Plus loin, des bancs de terre noire où la végétation commence à pousser. De longues traînées jaunâtres marquent l'endroit où dans 2 ou 3 jours de nouveaux terrains apparaîtront. Le bateau se meut lentement au milieu de ce dédale, tourne et retourne, si bien que Grébeau, encore mal au fait des habitudes du Nil, ne comprend rien à la manœuvre et entame une tirade sur les curieuses habitudes des indigènes qui ne vont jamais droit au but, mais usent le temps en course tortueuse. Je l'interromps net en lui montrant à reconnaître où est le chenal et en ce moment, il répète mon explication à sa mère et à sa sœur. Au-delà de Roda, c'est vraiment la Haute-Égypte qui commence. À droite, les bois de palmiers qui masquent la montagne, la plaine semée de villages, une haute berge d'humus noir et gras. À gauche, une mince bande de prairies ou de jardins, quelques arbres en lisière, et immédiatement le désert. Les montagnes, taillées et retaillées sur toutes les faces par les maçons anciens et modernes, s'éloignent, puis se rapprochent de la rive en formant une série d'amphithéâtres, ou plutôt de cirques largement ouverts. Derrière nous, la citadelle et les pyramides de Gizeh semblent se hausser pour nous poursuivre et disparaissent à chaque coude du fleuve pour reparaître 5 minutes après. Le vent est frais, le soleil à peine chaud, la lumière rouge vif, avec des rehauts jaunes aux jointures des pierres. Entre les deux pattes se trouve un petit autel de granit ou de porphyre rouge, ou plutôt une base de statue. Sur la patte de gauche, beaucoup de graffitis grecs, la plupart peu lisibles. L'impression d'ensemble est excellente. Les proportions du corps et de la tête sont encore sensibles malgré les mutilations. La face vue d'en bas se modèle admirablement et a une expression de grandeur et de sérénité que je ne lui soupçonnais pas. Quand le déblaiement sera terminé, je crois que l'on ne me reprochera pas d'avoir perdu mon temps et mon argent, ou plutôt l'argent de la France.
Tous les talents de Maspero se conjuguent ici. Maspero a un véritable talent d'écrivain. Son style est aussi incisif que celui d'un Jules Renard. Boulac, le 29 novembre 1885.
Nous venons d'avoir 4 ou 5 jours d'agitation extraordinaire. Après avoir reçu le Nisham Imtiaz, le Khedive a voulu montrer aux envoyés turcs les curiosités du Caire et, naturellement, le musée était du nombre. Le mercredi donc, vers 10h du matin, arrive une lettre de Noubar Pacha. Les Turcs devaient venir à 1h. À 1h, les Turcs n'étaient pas là, mais une seconde lettre de Noubar annonçant qu'ils ne viendraient pas. Le lendemain jeudi, le tapis rentrait, le musée était fermé, et j'espérais qu'en l'honneur de la fête, on me laisserait tranquille. Vers 10h, Coursi d'Effendi se précipite essoufflé. Le Pacha est là. Je me précipite à mon tour, mais du Pacha, pas de nouvelles. En revanche, 2 ou 3 Turcs secondaires attendaient à la porte. On leur ouvre, on attend. Après 1 heure d'attente, on me prévient que le Pacha a remis sa visite au lendemain. Vendredi, on nous prie de nous tenir prêts pour 9h30. Brouche arrive à 9h. Courside à 9h15, le personnel inférieur à 9h30. À 11h, le Pacha n'y était pas encore, mais un certain Kairi Bey, parent du sultan et aide de camp. Un Turc intelligent, parlant bien le français, s'intéressant à tout. Il avise le tombeau de Mariette et me demande ce que c'est. « C'est là, lui dis-je, qu'est enterré le fondateur du musée. » Il prend son lorgnon, l'ajuste à la dernière mode, déchiffre l'inscription et, se tournant vers moi d'un air stupéfait, « Le fondateur du musée était une femme ?» Il a dû achever son éducation au quartier latin. Cependant, midi se passe et nous faisons toujours le pied de grue. Je propose à Brouche d'aller déjeuner. Et il accepte quand un grand carrosse doré débouche à grand fracas. C'est le Pacha lui-même et sa suite. C'est un bel homme, figure régulière, portant bien l'uniforme. On me raconte qu'il doit sa fortune à une fantaisie de femme. Il était jadis lieutenant-capitaine dans un régiment d'infanterie. Et sans fortune, un jour qu'il défilait en tête de son escouade devant les fenêtres du sérail, une des sœurs du sultan le vit, voulut l'épouser et l'épousa. La visite du musée ne dura pas longtemps. Une charge au pas de course à travers les salles et tout fut dit. Il savait peu le français, mais encore moins le turc. Pourtant, en arrivant dans la chambre des momies royales, il s'anima un peu. Il s'arrêta devant la momie de Pinot. Et se tournant vers moi, « Alexandre ?»« Non. » Il parut un peu désappointé. « Cléopâtre ?»« Non. » En désespoir de cause, il revint à l'attaque une troisième fois. « Pygmalion ?»« Non. » Cette fois, c'en était trop. Il partit au galop et sortit sans plus chercher à regarder un musée qui n'avait ni Alexandre, ni Cléopâtre, ni Pygmalion.
Il a un réel don de peintre. Les couchers de soleil d'Égypte le fascinent. Béliané, le 13 mars 1886.
Le bateau est parti ce matin de Kéné, chargé comme à l'ordinaire. 6 moutons, 14 dindons, 8 zyres et des goulets innombrables de chaque côté de la machine. Le Nil est très bas et le chenal tellement encombré de sable que nous avons de la peine à passer dans bien des endroits. Je regarde de tous mes yeux afin de compléter mes impressions des années précédentes. La montagne de Dendera est d'une coupe hardie, presque aussi belle que celle de la montagne de Thèbes. Le pays est fertile. Chaque village est bâti sous des palmiers et est entouré de cultures. À Dézéné, le fleuve a emporté la moitié de la ville. Les maisons sont éventrées. Les briques jonchent la berge. Les femmes et les enfants, plaqués contre les murs, nous regardent défiler en criant « Bakchich !» La mosquée de Haou, celle qui est le plus près de l'eau, a perdu un angle. On voit à travers la brèche les rangées de colonnes et l'enfilade des portiques. Juste en vue de Béliané, le capitaine risque une manœuvre hardie et nous ensable à toute vitesse. Heureusement, Gay Lussac est là, qui s'attelle à nous, et en 2 heures, nous sommes dégagés. Le port de Béliané est encore tel que tu l'as connu, et avant d'aller attraper des puces à l'église copte, je regarde le soleil se coucher derrière la montagne d'Abydos. L'Occident est rouge et violet, semé de nuages éclatants, à mesure que le soleil descend, une teinte jaune claire, puis vert tendre succède à la teinte rouge. Vers l'Orient, une couche uniforme de lilas. Ne t'inquiète pas de les voir pliés en deux. Pour effacer le pli, tu n'as qu'à les laisser tremper dans de l'eau pure pendant 1 heure environ, puis à les faire sécher entre 2 feuilles de papier buvard sur lesquelles tu poseras un objet pesant qui les maintienne en place. Le mois de février est passé et une partie de mars l'aura suivi quand tu recevras cette lettre. Le temps commence à se raccourcir et je n'en suis pas autrement fâché. La situation doit être intolérable pour toi maintenant, surtout que tu sais que nous devons quitter l'Égypte pour toujours. Cette agitation nerveuse, ces crises que tu as presque chaque semaine sont désastreuses pour ta santé. À force de recevoir tant de chocs, ta constitution pourrait être ébranlée. Au revoir, ma chère petite femme. Bonne santé et bon courage.
À la mort de Louise, ces objets, complétés par ceux qu'avait rassemblés son fils Jean, ont été donnés à l'Université de Lyon. Ils figurent aujourd'hui dans la collection du Musée des Beaux-Arts de cette ville. Lorsqu'à sa demande, c'est dans la place à l'un de ses élèves Eugène Grébeau, Maspero rentre en France en juin 1886, c'est un quadragénaire, jouissant d'une notoriété internationale, qui retrouve à Paris ses activités au Collège de France, à l'École pratique des hautes études et à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, où il a été élu. En Égypte, aucun de ses successeurs ne réussit à s'imposer et à se faire accepter des Britanniques. Seul Maspero paraît être en mesure de conserver le service des antiquités à la France. On fait appel à lui avec insistance. Et après un intermède de 13 années, marqué par de nombreuses publications, Maspero finit par accepter de regagner le Caire à l'automne 1899. Il n'est pas mécontent de s'éloigner de Paris où l'affaire Dreyfus divise les esprits. L'Égypte, en revanche, bénéficie d'un nouveau climat. Paris et Londres ont conclu une convention qui prépare l'entente cordiale de 1904, dans laquelle la direction du service des antiquités sera officiellement attribuée à la France. Le nouveau musée du Caire doit être inauguré en 1902. Le service des antiquités s'accroît au fil des ans. Le premier barrage d'Assouan est en activité depuis décembre 1902. Et Maspero doit trouver de l'argent pour consolider les temples de Nubie menacés par les eaux. Ce grand administrateur est aussi un habile diplomate. 10 ans de bataille lui seront nécessaires pour faire promulguer une nouvelle législation sur les antiquités, interdisant les fouilles aux particuliers et empêchant les missions archéologiques étrangères d'emporter des pièces dont l'Égypte ne possède pas un double. Les rapports de Gaston Maspero avec les autorités britanniques sont corrects. Ils deviendront même excellents et l'égyptologue sera décoré de l'ordre des chevaliers de Saint-Michel et Saint-Georges, ce qui lui donnera le titre de sœur. Puisqu'il faut vieillir, autant vieillir honoré, écrit sœur Gaston à propos d'une énième décoration. Lorsque Maspero quitte l'Égypte en juillet 1914, après avoir réglé sa succession, il est remplacé solidement cette fois par Pierre Lacot, l'un de ses anciens élèves. C'est pour être élu à l'unanimité secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Louise se trouve pour une fois au Caire alors qu'il est à Paris. Il lui raconte les coulisses de cette élection avec l'humour qu'on lui connaît. Il a maintenant 68 ans et comblé d'honneur, il peut constater avec fierté que leurs deux fils ont entrepris l'un et l'autre une brillante carrière. Henri, sinologue, est un futur professeur au Collège de France, tandis que Jean est devenu un spécialiste de Byzance. Mais la Première Guerre mondiale qui survient quelques jours plus tard réserve au nouveau secrétaire perpétuel un drame dont il ne se remettra pas. La mort de Jean, tombé en Argonne. Le 30 juin 1916, alors que la séance de l'Académie touche à sa fin, Gaston Maspero lance à ses collègues « Mes chers confrères, je vous prie de m'excuser, je ne me sens pas bien. » Sa tête s'incline sur sa poitrine, il pâlit et expire aussitôt. Louise, elle, vivra jusqu'en 1952. La dernière lettre que lui avait adressée Gaston datait du 3 août 1914. Elle se terminait par ces mots « Ton mari qui t'aime, plus que jamais ». Ce n'était pas une formule de style.